Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus écouter ce qu'on a à vous dire à propos de M. Philippe Squarzoni, qui je peux qualifier de journaliste voyageur et engagé, parce qu'à chaque fois qu'il fait un voyage, chaque fois qu'il se promène, il leur amène un livre. Alors dans ces livres qui sont parus depuis quelques années, il y a eu Garde du Nour et Zapata sur les phénomènes du Chiapas, sur ton voyage au Mexique. Hein, c'est ça. La torture blanche sur un voyage que tu as fait en Israël et qui sur les rapports entre Israéliens et Palestiniens. Et puis Dole, qui est pas vraiment récit d'un voyage, mais plutôt quelque chose qui t'est inspiré par ce que tu as vécu en France, qui est sur le bilan un peu des années Chirac, Raffarin en France, quoi. Et en faisant Dole, finalement, tu t'es aperçu qu'il y avait quelque chose qui te passionnait et que tu n'avais pas encore la solution, c'est finalement tes préoccupations autour du réchauffement climatique, quoi. Et autour du réchauffement climatique, donc tu vas entamer un parcours d'à peu près 6 années qui vont te faire, qui sont vraiment une enquête et sur laquelle vont sortir ce livre qui s'appelle Saison Brune, qui est sorti il y a à peu près 18 mois et qui est un livre qui met en perspective, comment dire, le réchauffement climatique, la planète, un peu les solutions possibles et qui est aussi finalement, et que tu as choisi aussi toi pour raconter ce que tu voulais, faut raconter les aventures que tu avais vécues et tes préoccupations. Tu as choisi la bande dessinée, quoi, Philippe. Alors, première question, pourquoi avoir choisi la bande dessinée? Parce que tu aurais pu, ce sont des ouvrages qui sont des récits. Finalement, tu aurais pu les écrire, tu aurais pu faire de la photo, tu aurais pu faire du cinéma.
Parce que je suis auteur de bande dessinée.
Mais c'est inné.
Je ne sais pas comment dire, mais c'est pas une question. C'est étonnant parce que c'est une question qui revient souvent, mais c'est probablement pas une question que tu aurais posée à un scénariste de science-fiction ou à quelqu'un qui aurait fait de la bande dessinée de genre ou de l'autobiographie, etc. Et j'ai pas choisi la bande dessinée pour parler de thèmes qui me préoccupaient parce que le cinéma était déjà passé par là ou la littérature était déjà passée par là et puis il restait la bande dessinée. Je suis auteur de bande dessinée, pas journaliste, et certaines de mes préoccupations sont d'ordre politique et donc se retrouvent dans mes livres, mais c'est pas différent de n'importe quel autre auteur de bande dessinée dont les préoccupations se retrouveraient sous la forme d'un récit de fiction, d'une histoire d'amour, d'une autobiographie, etc. Il se trouve que moi, mes préoccupations se prêtent au récit documentaire, et c'est ce que j'essaye de faire, mais en aucun cas, d'abord, j'ai pas le statut de journaliste, je trouve qu'on fait un métier très différent. Il y a chez le journaliste un souci de préoccupation formelle qui n'a rien à voir avec le souci de préoccupation formelle d'un auteur de bande dessinée ou d'un cinéaste ou d'un écrivain. On a de notre côté l'ambition de faire œuvre, de faire création. Le journaliste n'a pas ces exigences-là. Donc je ne me sens pas journaliste, je me sens auteur de bande dessinée et je fais de la bande dessinée documentaire, mais je n'ai pas choisi la bande dessinée pour parler de sujets qui me préoccupaient. Je fais de la bande dessinée et certains sujets se retrouvent de façon documentaire dans mes livres.
Donc ouais, ta volonté, c'est de raconter, parce que tu penses que la bande dessinée, c'est le métier que tu as choisi, quoi. Faire de la BD, quoi.
Oui, voilà, mais un peu comme n'importe quel autre auteur de bande dessinée, probablement parce que j'en ai lu quand j'étais petit, parce que ensuite j'ai découvert des auteurs plus tard qui m'ont passionné, dont le sens de la narration, le questionnement formel m'a intéressé. Et donc ça a réveillé ce rêve d'enfance d'être auteur de bande dessinée. Et il se trouve que comme ces préoccupations-là, à mon sens, pouvaient être traitées sous la forme de documentaire, j'ai essayé de faire ce type de travail et qui est intéressant parce que l'histoire de la bande dessinée est complètement différente, par exemple, de l'histoire du cinéma. Le cinéma a commencé par le documentaire. Le cinéma a commencé par filmer un train qui rentre dans une gare. Et a d'abord filmé des scènes de vie avant de passer doucement à des fictions courtes. Et la bande dessinée, elle a commencé sur la bande dessinée de genre, la bande dessinée jeunesse, le divertissement, l'aventure. Ensuite, ces genres-là ont été nourris de choses plus sérieuses, plus matures. Une bande dessinée un peu plus adulte est apparue, toujours à travers le genre. Puis est apparue la bande dessinée autobiographique qui s'est détachée du récit de fiction. Et puis le documentaire n'existait pas en bande dessinée, il est apparu il y a une dizaine d'années et c'est passionnant parce qu'on a une forme à inventer, une forme que le cinéma connaît déjà. Si aujourd'hui vous faites un documentaire en cinéma, vous avez une histoire du cinéma vers laquelle vous tournez, des solutions qui ont été apportées, des bonnes, des mauvaises. En bande dessinée, on n'a pas ça et on doit les inventer, ces formes, on doit inventer une nouvelle façon de dire les choses parce que, à mon avis, c'est assez facile de faire une mauvaise bande dessinée documentaire. C'est un peu l'histoire de France en bande dessinée ou les histoires de l'oncle Bidule là dans Spirou. Vous mettez une tête qui parle avec 40 lignes de texte au-dessus et vous faites une bande dessinée documentaire avec beaucoup de contenu mais aucun intérêt formel. c'est presque pas de la bande dessinée, c'est pas de, en tout cas c'est pas de l'art, c'est pas de la création. Si on veut éviter ça, il faut arriver à trouver une nouvelle façon de raconter qui à la fois préserve le contenu, le met en valeur et préserve l'aspect création et fasse que ce soit pas juste des têtes qui parlent avec 40 lignes de texte au-dessus. Et le défi pour tous les gens qui font de la bande dessinée documentaire, que ce soit moi ou Étienne Davodeau ou d'autres auteurs ou les gens qui animent la revue dessinée toute nouvelle née, c'est d'inventer ces formes et de passer à travers les échecs, les réussites et de trouver des choses qui soient différentes. Ce que fait Étienne Davodeau formellement est très différent de ce que je fais et pourtant on fait tous les deux de la bande dessinée documentaire.
Donc ta bande dessinée documentaire, la Saison Brune, alors déjà tu peux expliquer le titre. Pourquoi Saison Brune ? Parce que c'est... Tu peux expliquer ce titre ? À quoi il correspond finalement dans...
Le titre, c'est toujours un peu compliqué pour un bouquin. C'est des fois la dernière chose qui vous arrive. Le titre, la dernière chose à trouver. Vous avez fini votre livre et vous n'avez toujours pas de titre. En l'occurrence, moi, pour une fois, j'avais un titre quand j'ai commencé le bouquin et qui n'était pas celui-là. Je m'étais référé à une citation de Paul Valéry qui est « Le temps du monde fini commence », que je trouvais très belle et qui a structuré mon récit, en fait, avec une réflexion sur les commencements, les fins. Et puis, pendant que j'étais en train de faire ce livre, en septembre 2011, je crois, Geneviève Azan, qui est une économiste d'attaque, a écrit un livre sur le réchauffement climatique qui s'appelait « Le temps du monde fini ». Donc, il fallait que je change de titre, et c'était très compliqué parce qu'il fallait trouver un titre qui ne soit pas trop explicite. J'essaye que mes titres ne le soient pas trop, que ce ne soit pas trop lourd, et qui prennent en compte beaucoup de choses. Le thème du réchauffement climatique est tellement large que le problème du titre, c'était qu'on risquait d'avoir quelque chose d'assez réduit, qui évoque à la fois le temps qu'il fait et le temps qui passe, parce que la notion du temps qui passe, d'urgence climatique est importante. Et pendant longtemps, le bouquin n'a pas eu de titre. Et puis finalement, je réfléchissais avec ma femme une fois sur le titre et je lui dis qu'est-ce qu'on pourrait trouver à partir de saison, parce que dans la saison, il y a le temps qui passe et le temps qu'il fait. Et elle avait lu un livre de Rick Bass qui se passe dans le Montana et elle m'a dit Saison Brune. La Saison Brune, c'est une cinquième saison dans le Montana qui vient entre l'hiver et le printemps, un moment où la neige commence à fondre, mais où le printemps s'est pas encore établi et donc tout n'est que boue, que voilà, tout, c'est la saison brune, quoi.
Ouais, tout fond, il y a le beau.
Et c'est une période intermédiaire entre l'hiver et le printemps et ça me semblait assez poétique et bien dire ce que le livre dit. On est dans une période de transition entre deux moments et cette période de transition, il faut en sortir.
Donc, quand tu as commencé à réfléchir à faire un livre sur le réchauffement climatique, tu partais quand même de pas énormément de connaissances. Il a fallu que tu pioches, tu ailles chercher la documentation, tu cherches des interlocuteurs et tu cherches tout ce qui était nécessaire à la construction de ton récit. Parce qu'il faut dire que ça a beau être un documentaire, c'est quand même d'abord un récit. C'est le récit de quelqu'un qui va aller essayer de comprendre comment le réchauffement climatique est en train d'évoluer et quels problèmes il pose à la planète.
Ouais, quand j'ai commencé ce bouquin, j'y connaissais rien, en fait. C'est presque le point de départ du livre. Sur mon précédent ouvrage, qui était consacré à essayer de faire un bilan des politiques menées pendant le deuxième mandat de Chirac, à un moment, je me suis posé la question de leur bilan écologique, de ce qu'ils avaient fait, surtout de ce qu'ils n'avaient pas fait. Et la plupart de ce qu'ils n'avaient pas fait concernait le réchauffement climatique. Donc j'ai lu un peu plus de choses là-dessus, et j'ai découvert la gravité de la situation, l'ampleur de ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour y échapper. Et cette inquiétude nouvelle chez moi est devenue l'objet du prochain livre. J'ai continué à lire, j'ai poursuivi mes recherches, je me suis documenté. Et la difficulté première de ce livre était de démarrer. Pour proposer un ouvrage à un éditeur, il faut avoir un synopsis. Mais pour proposer un synopsis sur ce bouquin-là, il fallait d'abord avoir fait le travail de documentation. Et pour faire le travail de documentation, il faut aller être payé par un éditeur. Donc c'était très difficile de mettre en place le livre parce qu'il fallait avoir un projet un peu précis à proposer. Mais pour faire ce projet précis, il fallait avoir fait les lectures. Donc j'ai fait un autre livre entre-temps et j'ai poursuivi mes lectures pendant que je faisais cet autre livre. Et au bout d'une dizaine de mois, j'ai pu proposer à mon éditeur non pas un synopsis, mais une liste de thèmes qu'il y aurait dans le livre en lui disant « Voilà, vous connaissez mes autres livres documentaires, ce sera la même chose ». Mais ça va parler de ces thèmes-là. Et à partir de là, j'ai eu un contrat qui m'a permis de poursuivre les lectures et de structurer un peu mieux le bouquin.
Dans le livre, tu racontes les rapports avec ton épouse, tu racontes comment ton évolution. Alors, Donc, tes lectures t'ont fait découvrir, comment dire, comment le réchauffement climatique, quel problème ça pose à la planète. Alors, je vais dire franchement, dans un festival comme ici, mais à ce que tu racontes dans tes livres, c'est de la science-fiction ou c'est quelque chose qui va probablement arriver? Oui.
Non, je pense qu'il y a zéro degré de science-fiction dans ce livre.
Il y a zéro degré de science-fiction. On est bien dans quelque chose qui... Est-ce que c'est inéluctable ou est-ce que finalement les rencontres que tu as faites, qu'est-ce qui t'a amené à penser que c'était inéluctable? Tu as les rencontres avec les gens du GIEC, qui est le groupement...
Le groupement des experts, le groupement intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat.
Donc, alors, ce GIEC, dans lequel tu as beaucoup puisé, tu as rencontré beaucoup d'experts du GIEC. Alors, ce GIEC, quel est son rôle, finalement, dans la planète par rapport au gouvernement? Quel est le rôle, leurs études, dans quel domaine sont-ils? Tu peux expliquer un peu ce à quoi ils servent? Et à quoi sert quel est leur rôle, finalement, par rapport au gouvernement?
Le GIEC est une structure qui a été montée en collaboration entre l'ONU et l'Organisation météorologique mondiale. À la fin des années 80, un nombre important de scientifiques ont commencé à s'inquiéter de l'effet qu'auraient nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et l'éventualité d'un réchauffement climatique. Et la gravité des enjeux a fait que s'est constitué le GIEC. Alors le GIEC, qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas un lieu où on va faire de la recherche. C'est un lieu où on va essayer de répondre à une série de questions sur est-ce que le réchauffement climatique est en cours, est-ce que l'homme en est à l'origine, et ces réponses, on va essayer de les trouver dans ce que la science peut nous dire sur le réchauffement climatique. C'est-à-dire, il faut faire appel à des données qui sont réparties partout dans le monde, dans des laboratoires scientifiques, à la NASA, dans des laboratoires météorologiques, là où les gens ont fait des relevés de température, des courbes de température, observer la fonte des glaciers polaires, l'élévation du niveau des océans, l'élévation de l'acidité des océans, etc. Il faut faire appel à une série de connaissances qui sont aux mains de sociologues, d'historiens, d'énergéticiens, de chimistes, etc. Et donc le GIEC va essayer de rassembler ces données sur un travail qui dure 4 à 5 ans et de répondre à ces questions en une série de rapports qui, tous les 5 ans, essayent de fournir un constat précis de ce que la science peut nous dire aujourd'hui sur le réchauffement climatique. Et quand on voit le processus d'élaboration et d'écriture des travaux du GIEC, on a relativement confiance dans ce qu'ils nous disent. C'est des centaines de chercheurs qui vont écrire la première version du rapport du GIEC, et ensuite ils vont la rendre disponible à l'entièreté de la communauté scientifique mondiale, qui va faire des remarques, des commentaires, des critiques. Et le GIEC va avoir l'obligation de répondre à chacune de ces remarques, et ces réponses sont rendues publiques. À partir de là, une deuxième version du rapport va être écrite, rendue publique à l'entièreté de la communauté scientifique mondiale, qui va à nouveau faire ses remarques, ses critiques, ses commentaires, et le GIEC aura l'obligation de répondre à chacune d'entre elles, et les réponses seront rendues publiques. Et à partir de là, une troisième version du rapport est établie, qui est ce que la science peut nous dire aujourd'hui sur le réchauffement climatique. Pour le dernier rapport du GIEC, je crois que c'est plus de 800 chercheurs qui ont collaboré à l'écriture du rapport et qui ont eu à répondre à plus de 25 000 remarques venant de toute la communauté scientifique mondiale. Donc il y a un consensus, le GIEC nous dit ce que nous dit la science. Et quand la science ne sait pas, le GIEC nous dit on ne sait pas, quoi. Donc le premier rapport du GIEC disait il y a probablement un réchauffement climatique en cours. Le deuxième disait il y a un réchauffement climatique en cours, l'homme en est probablement la cause. Le troisième disait l'homme en est la cause et voilà quelles pourraient être les conséquences. Et le quatrième confirme tout ça, hein, le cinquième, je ne sais plus.
Le cinquième, c'est celui qui vient de paraître, là.
Voilà, le cinquième, c'est celui qui vient de paraître.
On en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, toi, dans le rapport dans lequel tu t'es plongé, c'est celui qui est paru il y a 5 ans. Et alors, à quelle période, ce rapport détermine le début du réchauffement climatique?
Le début de l'ère industrielle.
Donc, c'est vers milieu 19e siècle, à peu près?
Voilà, c'est quand on commence à injecter massivement des gaz à effet de serre à partir de la combustion du charbon, du gaz naturel et du pétrole. À partir de là, on injecte massivement dans l'atmosphère du CO2, du méthane, du protoxyde d'azote, qui sont des gaz à effet de serre qui existent de façon naturelle dans l'atmosphère. L'effet de serre, c'est quelques gaz très très rares, une molécule sur 1000 dans l'atmosphère. Le principal d'entre eux, c'est la vapeur d'eau. Ensuite, il y a le CO2, il y a le méthane, le protoxyde d'azote. Et ces gaz ont une propriété particulière qui vont faire que le rayonnement solaire passe à travers l'atmosphère. Une partie est déviée vers l'espace, une partie atteint la Terre, et puis cette chaleur, cette énergie est renvoyée vers l'atmosphère, et là 90% de cette chaleur va être bloquée par les gaz à effet de serre qui existent de façon naturelle, et piégée à la surface de la Terre. Et ça a un rôle essentiel sur le climat parce que la température moyenne à la surface de la Terre est de 15 degrés en moyenne. S'il n'y avait pas de gaz à effet de serre naturellement dans l'atmosphère, la chaleur repartirait dans l'atmosphère et la température moyenne à la surface de la Terre serait de moins 18 degrés. À moins 18 degrés, il n'y a pas d'eau liquide, donc il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc, à l'état naturel, ces quelques très rares gaz dans l'atmosphère ont une importance capitale sur la régulation thermique de la planète. Et depuis deux siècles, on a injecté massivement du CO2, du méthane, du protoxyde d'azote, des nouveaux gaz industriels qui n'existent pas naturellement dans l'atmosphère. Et on a augmenté les quantités de CO2 de 38%, on a doublé les quantités de méthane dans l'atmosphère, également pour les quantités de protoxyde d'azote. Et le phénomène qui se passe, c'est un phénomène d'effet de serre accru, de chaleur qui reste à la surface de la planète. Et on a augmenté la température moyenne de la planète de 3/4 degré pour l'instant.
Donc ce qui était relativement important pour l'instant. Mais comment dire, donc toi, dans tes différentes démarches de ce que tu as découvert, donc tu découvres que finalement l'effet de serre a commencé finalement il y a pas au milieu du 19e siècle. Alors quelles sont les conséquences? Tu nous as dit ça fait une augmentation de la température. Mais alors maintenant, quelle est l'étape suivante dans laquelle qu'as-tu découvert par la suite après cet effet de serre? Quels sont les points importants que tu as soulevé, toi, qui t'ont concerné, parce que tu sens vraiment concerné par ce qui se passe actuellement, quoi.
Après, la deuxième question, une fois que vous savez qu'on a commencé à réchauffer le climat de la planète et que les perspectives de réchauffement vont de 1,4 degré à 6 degrés de réchauffement de la température moyenne à la surface de la planète d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle, la question, c'est quelles sont les conséquences? Et c'est là que la science a le plus de doutes, le moins de certitudes, mais quand même certaines directions. On sait que l'élévation des températures ne sera pas la même partout sur la planète et qu'elle frappera certains endroits beaucoup plus que d'autres. Et on sait aussi que les conséquences seront différentes suivant les régions du monde. Ça va modifier, par exemple, la répartition de la pluviométrie. Et ça va la modifier d'une façon probablement assez injuste du point de vue de notre point de vue. C'est-à-dire que là où il y a beaucoup de pluie, il y en aura plus. Et là où il y a un déficit hydrique, il y aura encore moins de pluie. Donc ça va accentuer la sécheresse dans les régions qui souffrent déjà de la sécheresse. Et ça va accentuer la précarité des conditions de vie des populations qui vivent dans ces régions-là. Ça va aussi probablement augmenter le niveau des océans, parce que l'eau chaude occupe plus de place que l'eau froide, parce que les calottes polaires vont fondre, et l'augmentation du niveau des océans va produire en masse, par centaines de millions, des réfugiés climatiques, on en parlait dans le débat précédent. Ça va aussi déplacer les maladies à vecteurs, celles qui sont transportées par des animaux, par des moustiques, par des rats, comme le paludisme. Ça va générer dans certains endroits des inondations, dans d'autres des sécheresses. Ça va générer... À plus long terme, ça risque de générer un arrêt du courant, des courants océaniques et du Gulf Stream.
Du Gulf Stream, oui.
Ça peut détraquer le climat d'une façon qui est imprévisible. Bref, moi, en soi, c'est pas des choses qui me gênent. Je veux dire, je suis un amoureux de la nature. J'aime a priori l'idée de protection de l'environnement. Mais ce qui m'inquiète, c'est les conséquences sur les sociétés humaines. Et les conséquences sur les sociétés humaines seront catastrophiques, et seront catastrophiques pour les populations les plus démunies, parce que c'est toujours ceux qui souffrent le plus des catastrophes naturelles. Et en l'occurrence, les pays du Sud, qui sont les moins responsables du réchauffement climatique, seront ceux qui seront exposés au plus grand nombre de changements, alors qu'ils y sont déjà les plus sensibles.
Ouais, tu parles aussi dans ton enquête, justement, de ce déséquilibre qu'il y a entre les sociétés entre les sociétés dites riches et les sociétés dites pauvres, entre les endroits où... Et à l'intérieur de chaque société, tu as aussi ce même phénomène. Même dans les sociétés occidentales dites riches, il y a aussi un déséquilibre entre les riches des sociétés occidentales et les pauvres. Et ça, c'est un événement assez important et assez fondamental si on veut éviter que les sociétés se désagrègent ou qu'on ait ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, les fractures à l'intérieur de nos sociétés, quoi. Tout ça, ça va évoluer si on ne fait rien, quoi. Ça.
Oui, l'exemple type de ce qui peut se passer dans une société était assez graphiquement illustré par l'ouragan Katrina qui a frappé la Nouvelle-Orléans. Non pas que Katrina soit forcément comme ouragan lié au réchauffement climatique. On n'a pas une certitude là-dessus. Katrina aurait très bien pu se produire sans réchauffement climatique. Mais après, c'est les conséquences. Qu'est-ce qui se passe dans une ville frappée par un ouragan? et ensuite par l'inondation de la ville, parce que le lac à côté se vide dans la ville, et ben les riches partent. Les riches partent parce qu'ils ont des voitures, parce qu'ils peuvent se payer une nuit d'hôtel, parce qu'ils ont des gens qui peuvent les accueillir ailleurs, et les pauvres restent. Et les pauvres restent dans des quartiers insalubres, qui sont en bas de la ville, qui sont les plus inondés, et ils vont être les derniers secourus, ils vont attendre les secours pendant quasiment une semaine. Donc ça, c'est assez symbolique de ce qui peut se passer et de la façon dont les plus vulnérables sont toujours les plus exposés. On l'a vu aussi au moment du tsunami qui avait frappé en 2004. Les riches partent, ils peuvent partir avant la catastrophe. S'ils sont restés sur place, ils ont plus de moyens de se protéger. Et après coup, ils peuvent se réinstaller ou s'installer ailleurs. Alors que les pauvres restent sur place, se prennent la catastrophe et doivent continuer à vivre dans des terres qui sont devenues inhabitables.
Oui, dans des conditions très, très difficiles. Ils n'ont pas les moyens de se reconstruire ni de reconstruire leur environnement, quoi. Enfin, de reconstruire leur maison. On voit bien, tu parlais du tsunami 2004, quand on voit sur l'Inde ou le Sri Lanka, il y a encore des séquelles qui sont restées là, quoi.
On l'a vu aussi au moment de Fukushima. Ouais. Les riches japonais pouvaient se payer un billet d'avion pour partir à Paris, mais les billets d'avion avaient été multipliés par 10. Les pauvres restent au Japon.
Et sur Fukushima, c'est vraiment dramatique. Donc aussi, dans ton enquête, tu as rencontré quand même beaucoup de scientifiques du GIEC. Alors, tu présentes dans ton livre, tu les présentes sous forme d'interview. Alors, que t'ont-ils apporté? Qu'apporte-t-il, je veux dire, à ton récit de mettre ces gens dedans et leurs propos pour faire évoluer ta réflexion?
Il y avait plusieurs choses dans le fait d'aller voir des scientifiques et de leur poser des questions. Quand vous allez interviewer quelqu'un, une partie de ce qu'il va vous dire, vous le connaissez déjà à l'avance. Vous avez lu ses livres, vous savez ce qu'il a à dire, et vous allez chercher une nouvelle fois ces choses-là. Et puis vous allez aussi poser des questions dont vous ne connaissez pas la réponse et dont vous espérez qu'elle va enrichir le bouquin. Ce que j'ai fait avec ces interviews, c'est ce que font les cinéastes dans le documentaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le récit s'interrompt et vous avez une personne qui parle face caméra et qui pendant 30 secondes explique un peu son expertise sur une question. Au cinéma, c'est un processus qu'on a intégré, qui est accepté en bande dessinée. Ça n'a jamais été trop fait et c'était un petit peu un pari de le réussir parce que c'est assez statique au cinéma où quand vous avez le son de la voix qui change, l'expression d'un visage qui peut changer trois fois sur une seule phrase, la gestuelle, c'est quand même quelque chose de pas trop figé. En bande dessinée, c'est un peu plus figé, mais je voulais m'emparer précisément de ce côté figé pour en faire des moments aussi qui changent le rythme de lecture et qui permettent un repos au lecteur. En bande dessinée, vous lisez trois choses quand vous lisez une bande dessinée. Vous lisez l'image, vous lisez le texte et vous lisez le rapport texte-image. Et ces moments d'interview face caméra sont des moments où cette lecture, elle se simplifie. L'image a plus trop d'importance. Par contre, le texte peut avoir de l'importance et ça permet, l'air de rien, des coups d'accélérateur. C'est un moment où tout d'un coup, le dessin va devenir très sobre. L'important, c'est ce qui est dit. Et si vous faites une double page avec Jean Jouzel qui vous explique que on n'échappera pas à 2,5 degrés de réchauffement parce qu'il y a un effet retard et que les émissions qui comptent sont celles qu'on a faites sur les 20-30 dernières années et que donc, si demain on arrêtait toutes nos émissions de gaz à effet de serre, on aurait encore 1,5 degré de réchauffement à se prendre. Si à ce moment-là, vous faites très sobre dans l'image et que c'est juste Jean Jouzel qui parle, ce qu'il a à vous dire et la gravité de ce qu'il a à vous dire et tout d'un coup produit un effet d'accélérateur un peu à contrario alors que la mise en scène est très sobre. On peut faire aussi l'inverse et à un moment faire une double page absolument spectaculaire en termes de dessin avec très peu de mots, mais ça permet de jouer un peu sur tous les registres de la bande dessinée et c'est ce que j'essaye de faire parce que quand vous faites une bande dessinée de 500 pages sur le réchauffement climatique, comme je le disais au début, c'est facile de vous planter et de faire un mauvais bouquin. Donc j'ai essayé dans ce livre-là de m'emparer de tous les registres narratifs qu'offre la bande dessinée pour varier les effets et essayer de faire en sorte que ce que j'ai appris et ce qui m'a inquiété soit reçu de la même façon par le lecteur et que ça touche aussi le lecteur et que ça l'inquiète éventuellement aussi.
C'est réussi, je peux le dire, parce que quand j'ai lu, moi, la première fois que j'ai lu, c'est quand il est paru il y a 18 mois. Ouais, c'est vrai qu'on avait déjà fait une rencontre et c'est vrai que c'est un livre, quand on arrive à la fin, comment dire, on se dit, tout ce qu'il nous raconte, ça semble très juste, très vrai, c'est vérifié, c'est très crédible. Mais alors maintenant, est-ce que ton livre apporte des solutions aux problèmes que tu, qui sont posés par, par ton enquête. Est-ce que tu, les scientifiques, donc, ils te disent ce qui va pas, qu'est-ce qui va se passer, mais est-ce qu'eux, ils apportent des solutions ou ils apportent des directions dans lesquelles on pourrait peut-être aller pour éviter la, bah, la catastrophe, quoi?
Oui, alors la dernière partie du livre, assez classiquement, est consacrée à la recherche de solutions alternatives et qu'est-ce qu'on pourrait faire à la fois pour s'adapter au changement qui est déjà inéluctable et puis pour réduire massivement nos émissions, ce qui n'est pas évident à faire. Et donc j'essaye d'envisager un peu toutes les solutions qui sont proposées, y compris les fausses pistes, les solutions qui s'avèrent être des impasses, notamment l'option nucléaire ou des solutions qui sont insuffisantes si elles sont prises uniquement... pour elles-mêmes, comme les énergies renouvelables ou les fausses pistes complètes comme la société de l'hydrogène ou ce genre de scénario de science-fiction. Et puis j'ai trouvé chez la Fondation Negawatt, qui sont des énergéticiens, des ingénieurs en énergie, un scénario qui est crédible. Les gens de la Fondation Negawatt ont bâti un scénario énergétique alimentant la France heure par heure jusqu'en 2050 et réduisant par 4 nos émissions de gaz à effet de serre à partir de 3 principes. Un principe de sobriété, consommer moins d'énergie, que ce soit volontairement, que ce soit par la réglementation, que ce soit par des contraintes fiscales, etc. Un scénario qui repose sur un deuxième pilier qui est l'efficacité énergétique, utiliser les techniques existantes aujourd'hui, uniquement les techniques existantes aujourd'hui qui sont les moins consommatrices d'énergie. Hein, l'idée du scénario Negawatt, c'est que le kilowattheure qui pollue le moins, c'est celui qui n'est pas consommé. Donc il existe aujourd'hui une réserve de négawatts, c'est-à-dire d'énergie à ne pas dépenser, énorme, parce qu'on gaspille beaucoup d'énergie avec des procédés qui sont pas efficaces, et on pourrait diminuer énormément nos consommations d'énergie dans le chauffage, dans le déplacement, dans le transport, etc., en utilisant les techniques les plus efficaces. Et le dernier pilier du scénario Negawatt, c'est changer l'approvisionnement à la source, se débarrasser du nucléaire, se débarrasser au maximum des énergies fossiles et développer un bouquet d'énergies renouvelables, éolien, solaire, qui permettent de compenser le manque à gagner sur la perte en nucléaire, etc. Et leur scénario fonctionne, il est intéressant, il ouvre une porte de sortie, il est crédible. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas du tout politiquement dans l'air du temps. Il va exactement à l'inverse du productivisme énergétique qu'on connaît actuellement et du centralisme énergétique.
Donc, comme on disait tout à l'heure, dans le début du réchauffement climatique, c'est le milieu du 19e et la révolution industrielle. Et actuellement, donc, les responsables, on peut parler des industriels, mais aussi on peut parler aussi des politiques qui ont un rôle dans ce qui se passe actuellement et tout ce qui se passe depuis cette époque-là. Et le rôle des politiques, malgré les discours, on se rend compte que certains, il y a, comment dire, on peut parler du protocole de Kyoto, on peut parler de différentes choses qui sont passées. Entre les paroles et les conséquences qu'il y a eu, on se rend compte qu'il y a un hiatus quand même. Entre les désirs, les propositions qui ont été faites, quoi. On peut parler, bon, par exemple, de Chirac, quand il se rend compte qu'il faut faire quelque chose, il a des discours, mais après, qu'est-ce qui se passe, quoi?
Oui, c'est ce qui est assez désespérant, c'est que la nature même de la crise climatique fait qu'il faudrait mettre en œuvre aujourd'hui des changements de société dont aucun d'entre nous n'a envie, pour des effets attendus dans 50, dans 100 ans, à un horizon où aucun d'entre nous n'en profitera. Et les politiques sont élus, ils ont les yeux braqués sur la prochaine échéance électorale et aucun d'entre eux n'a ni l'envie ni la possibilité aussi de mettre en œuvre ces changements parce qu'il y a des corporatismes, il y a des résistances, il y a des oligarchies qui mettent des freins à tout ça et qui n'ont aucun intérêt à ce que ces changements soient mis en œuvre.
On s'en rend compte. De plus aussi, tu as rencontré aussi, il y a une communauté scientifique qui est venue quand même un peu comme contredire ce phénomène climatique, en particulier avec Claude Allègre, qui a su convaincre certains scientifiques que cette théorie du réchauffement climatique était une ânerie, quoi.
Oui, alors, je parlerai pas de communauté scientifique, mais juste de quelques figures médiatiques isolées. Il y a effectivement des gens qui, pour des raisons assez différentes, les climato-sceptiques américains sont pas du tout les mêmes que les climato-sceptiques français, s'opposent à cette idée du réchauffement climatique. Mais ça me chagrine d'en parler parce que ces gens représentent vraiment rien du tout. Et d'accord. Plus on en parle, plus on donne l'impression qu'une partie du monde scientifique ne partage pas les conclusions du GIEC, ce qui est faux. La communauté scientifique est unanime sur la question du réchauffement climatique. Mais quelques figures médiatiques en France principalement pour des raisons idéologiques, pour des raisons de rivalité entre les différentes sciences, pour des raisons aussi d'ego, s'oppose à ces conclusions-là. Aux États-Unis, c'est un peu différent, c'est des pseudo-scientifiques, souvent à la solde de lobbies pétroliers, de lobbies énergétiques. C'est les mêmes qui disaient que dans les années 60 que la cigarette n'était pas cancérigène, qui s'opposent aux conclusions du GIEC. Mais c'est vraiment très très isolé, c'est rien du tout. Il y a un chiffre qui est éclairant là-dessus. Des Américains ont fait une étude. Ils ont pris de façon aléatoire 900 publications scientifiques sur le réchauffement climatique et ils ont examiné combien d'entre elles mettaient en doute l'existence du réchauffement climatique ou le fait que son origine soit l'homme. Ils en ont trouvé zéro. Et ils ont pris 600 articles de presse parlant du réchauffement climatique et ils ont examiné combien d'entre eux mettaient en doute l'existence du réchauffement climatique et ils en ont trouvé la moitié. Donc, ce que disent les climato-sceptiques et ce que dit une partie de la presse ne reflète pas ce que pense la communauté scientifique, et ça, c'est assez important à dire quand même.
Eh ben, c'est important de le dire parce que pour beaucoup de gens, parce que finalement, ce que dit la presse, c'est quand même ce qui passe le plus facilement au niveau du public, alors que ce que dit la communauté scientifique reste quand même un peu enfermé dans leurs publications et dans la communauté, quoi.
Alors, il y a le livre de Claude Allègre, et puis surtout, il y a le livre de journalistes qui ont travaillé sur le livre de Claude Allègre. Et là, c'est rigolo. Si c'était pas désespérant, ce serait vraiment rigolo, quoi. Parce que. Mais c'est incroyable, quoi. Ce type invente des scientifiques dont les conclusions seraient contraires à celles du GIEC. Il fait des citations de revues dans des articles qui n'existent pas. Reproduit des courbes d'élévation des températures en les faisant descendre à la fin, alors que la courbe originale monte. Mais c'est un festival, quoi. C'est hallucinant qu'un tel livre ait pu être publié dans une collection plutôt prestigieuse, hein, d'ailleurs.
Oui, oui, dans quelque chose qui semble crédible, quoi. On est quand même. On peut parler d'escroquerie, là. Escroquerie intellectuelle. Donc, ton livre, toi, tu as fini de l'écrire il y a à peu près 2 ans, je veux dire, hein, comme ça. Et, alors, les conclusions, tout ce que tu nous racontais là. Est-ce que depuis 2 ans. Toi, tu es est-ce que ce que tu prévoyais se conforte ? Et est-ce que tu sens qu'il y a un mouvement quand même, que quelque chose a évolué, ou est-ce qu'on continue pareil et qu'il ne s'est rien passé ? Il y a le nouveau rapport du GIEC qui est arrivé que tu as dû consulter. Entre les deux rapports, qu'est-ce qui a évolué finalement ?
Ça s'est aggravé.
Ouais, la conclusion, c'est que ça s'est aggravé, quoi.
Une partie des conclusions du GIEC du premier rapport. Semble aujourd'hui trop optimiste, et notamment en ce qui concerne l'élévation du niveau de la mer, l'élévation des températures à venir, et même nos niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. On émet plus de gaz à effet de serre aujourd'hui que dans le pire scénario du GIEC de 2004 et de 2007. Donc les choses se sont aggravées au-delà des scénarios les plus pessimistes du GIEC. Et par ailleurs, politiquement, une série de rendez-vous internationaux ont été des échecs et ne promettent pas grand-chose de positif pour l'avenir.
On parlait de la conférence de Copenhague, peut-être, ou des rendez-vous. Donc, là-dessus, on va à la catastrophe, non ou pas ? On y va ? Est-ce que quelque chose peut se passer ? Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer les choses ? Que finalement, ce que prévoit le GIEC ne se produise pas ? Tu es plutôt pessimiste ?
C'est difficile de répondre à cette question.
Ouais.
Je suis plutôt pas optimiste.
T'es plutôt pas optimiste.
Hein ? Le problème, c'est que si vous dites ça, c'est quand même désespérant. Et on peut pas se contenter de dire je suis plutôt pas optimiste. Ce que dit le livre, d'une certaine, c'était un des problèmes. Comment finir mon livre ? Après avoir dépeint l'ampleur du mur qu'il faudrait franchir, après avoir dépeint la gravité de la catastrophe, comment finir d'une façon qui soit pas désespérante, tout en étant honnête, tout en disant ce qu'on pense vraiment ? C'est un peu compliqué. Le fait que le scénario négawatt existe, que des scénarios du même type aient été faits en Allemagne, en Angleterre, et arrivent aux mêmes conclusions, c'est porteur d'espoir. Donc il existe une porte de sortie. Ça, c'est le point 1. Et cette porte de sortie, on l'emprunte pas du tout, on lui tourne le dos, elle se referme un peu plus chaque jour. Ça, c'est le point 2. Et le fait qu'elle existe signifie pas qu'on va la prendre. Et personnellement, je pense pas qu'on va la prendre. Mais c'est pas trop tard. Ce sera bientôt trop tard, mais c'est pas trop tard. Alors, est-ce que je suis optimiste ou est-ce que je suis pessimiste?
Je sais pas. Je sais pas. Donc, moi, je vous encourage à lire quand même Saison Brune. Bon, parce que c'est quand même d'abord une bande dessinée qui traite, qui est un documentaire et qui va vous apprendre plein de choses sur le réchauffement climatique, qui va vous faire peut-être prendre conscience des risques qu'il y a à continuer tel qu'on est actuellement, quoi. Par contre, s'il y a des gens qui ont des questions pour Philippe, qui veulent approfondir le sujet. Non, personne ne... Oui, Audrey.
Pardon, je ne sais pas entendu.
Alors, la question était d'écrire un peu plus
le
plan mégawatt. J'en ai déjà un petit peu parlé. L'idée du plan mégawatt, c'est que on gaspille énormément d'énergie et qu'on pourrait, à service rendu égal, diminuer énormément nos consommations d'énergie. Et le à service rendu égal est important parce que c'est pas un retour à la bougie, quoi. Hein. C'est pas on se déplacera plus, on regardera plus la télé ou Dieu sait quoi. C'est à service rendu égal, on peut diminuer fortement nos consommations d'énergie et diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça veut dire toute une série de mesures. Ça veut dire revenir à des politiques telles qu'elles ont été menées et avec succès dans les années 70 au moment de la crise pétrolière, la chasse au gaspillage, consommer moins, arrêter de gaspiller de l'énergie, en changeant nos comportements, en changeant nos réglementations, en allant vers des interdictions, vers des taxes, vers des réglementations, vers des contraintes. Ce qui n'est pas du tout dans l'air du temps, hein, ce qui n'est pas du tout dans la logique du libéralisme économique, mais c'est ce qu'il faudrait faire. En allant vers une sobriété aussi probablement de nos modes de vie et de nos transports, d'une certaine façon, il y a aussi des choses à quoi il va falloir renoncer. Quand je dis à service rendu égal, c'est pas complètement vrai. Le transport aérien démocratique, par exemple, à mon avis, c'est fini. À moyen terme, ça n'existera plus. Les élites intellectuelles, culturelles, les footballeurs, les cinéastes et les économistes et les politiques continueront à prendre l'avion et à se déplacer. Mais je pense que le transport aérien tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire pour l'ensemble de la population, c'est fini. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se déplacer en bateau, on l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se déplacer autrement. Et puis après, une autre partie du plan du GIEC, comme je le disais, c'est l'efficacité énergétique que j'avais un petit peu décrit, avoir recours aux meilleures techniques existantes aujourd'hui. Et c'est une ouverture aussi vers les pays du Sud. C'est-à-dire que si ces techniques-là, on accepte de les transférer tout de suite aux pays du Sud, aux pays en voie de développement, et qu'ils échappent à la phase ultra-polluante par laquelle nous, on est passé. Ça veut dire libérer les brevets, ça veut dire révolutionner complètement l'organisation du monde tel qu'on la connaît, l'organisation économique, ça veut dire changer les règles de l'OMC, etc. Mais si on leur fournit ces techniques performantes aujourd'hui, on peut leur permettre un niveau de développement énergétique et donc un niveau de développement tout court qui éviterait la phase polluante par laquelle on est passé. Parce qu'il faut que nous baissions nos émissions, mais il faut que les pays du Sud puissent quand même connaître des niveaux de développement qui les sortent du sous-développement. Et puis la dernière phase, c'est, comme je le disais, de changer nos sources énergétiques et d'abandonner les hydrocarbures. C'est ça le plus important, en fait. Et il faut l'abandonner pour deux raisons. Déjà, parce que tout ce que nous injectons comme hydrocarbures cramés dans l'atmosphère augmente le réchauffement climatique, mais aussi parce qu'il n'y en a plus tant que ça du pétrole. À moins d'avoir recours au pétrole non conventionnel, au schiste bitumeux, etc. Mais du pétrole, il y en a pour encore une centaine d'années au rythme de consommation d'aujourd'hui. Et une centaine d'années, c'est quand même assez court, et c'est la base de nos sociétés, hein, c'est la glaise dans laquelle sont modelées nos sociétés, le pétrole. Donc il faut s'en débarrasser, et il faut permettre aux pays du Sud de s'en débarrasser, parce que les prix du pétrole vont augmenter. Et pour les pays du Sud qui ne sont pas producteurs de pétrole, c'est une catastrophe, le zigzag des prix du pétrole. Donc il y a un côté vertueux dans le scénario négawatt par rapport au réchauffement climatique, mais par rapport aussi à d'autres contraintes, aux deux autres contraintes qui sont l'épuisement des ressources fossiles et le sous-développement des pays du Sud qui doivent pouvoir eux aussi avoir accès à l'énergie et émettre un peu de gaz à effet de serre. Et si ça nous libère de la dépendance aux fossiles, ça nous libère aussi d'aller chercher ces schistes bitumeux, ces gaz de schiste, ces pétroles de schiste, qui, dans l'extraction, dégage 3 fois plus de CO2 que l'extraction du pétrole conventionnel et qui vont aussi envoyer dans l'atmosphère des quantités massives de gaz à effet de serre qui feront exploser, alors là, tous les indicateurs du GIEC. Si on brûle tout le pétrole conventionnel qui reste, on aura déjà envoyé dans l'atmosphère 3 fois plus qu'il ne faudrait pour maintenir le climat. 3 fois plus de gaz à effet de serre. Si en plus on va chercher les pétroles non conventionnels, mais alors on est dans un scénario qui est inimaginable, qui est scientifiquement plus du tout possible à décrire.
Tu as beaucoup tourné avec ton livre dans différents domaines. Quelles sont les questions ou les, comment dire, qu'as-tu remarqué de plus par rapport aux gens avec qui tu as communiqué autour de cet ouvrage, dans les conférences, les rencontres, quelles ont été les réactions les plus fréquentes?
Et qu'est-ce qu'on peut faire?
Qu'est-ce qu'on
c'est
peut
toujours
faire?
Là, voilà, la question, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Enfin, à part certaines.
Ouais, à part les propositions que tu fais, quoi. Les gens, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, la conclusion, c'est quand même finalement à chacun d'entre nous de s'emparer un peu de ce problème, d'en prendre conscience, de s'en emparer et d'essayer de faire évoluer les choses, quoi. À son petit niveau, quoi.
Oui, je pense que c'est la première étape. Elle n'est pas suffisante.
Bien sûr, ouais.
Mais c'est la première étape. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Philippe? Bon, ben. Viens là
poser, vas-y. Du coup, si je me rappelle bien, tu t'es attaqué au système économique. Là, c'est, on va dire, au système écologique. Est-ce que le changement, il passe pas par un changement de système politique, de pratique politique générale? Est-ce que tu es déjà en train de bosser là-dessus, ou dans ta tête au moins?
Oui, c'est vrai que là, j'en ai pas beaucoup parlé, mais le livre parle aussi de la dimension politique de la crise écologique, parce que les solutions ne sont pas toutes les mêmes, et elles ne se valent pas toutes, et elles ne vont pas toutes vers la même société. Une partie de la solution pourrait consister à dire, eh ben, tant pis, nous, on continue à envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et puis on laisse les pays du Sud dans leur sous-développement, et advienne que pourra. Une partie des solutions consiste à dire, on doit revenir à une égalité énergétique, on doit permettre aux pays du Sud d'avoir accès à l'énergie, et on doit massivement, nous, baisser nos consommations d'énergie. Et c'est pas du tout les mêmes propositions politiques. Donc, je me rappelle que Sarkozy avait ouvert le Grenelle de l'environnement en disant on va arriver à un consensus sur les dérèglements climatiques, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas consensus entre tous les gens qui étaient autour de la table du Grenelle, des industriels, des associations écologiques, des syndicats, etc. La politique, c'est le lieu du dissensus entre deux projets de société radicalement différents, et je pense qu'il faut affronter ça. Toutes les solutions sur le réchauffement climatique ne se valent pas. Et moi, une partie de ce qui fait mes valeurs, de ce que je défends, c'est d'arriver à plus d'égalité, à réduire les injustices. Et ça permet aussi de résoudre d'une certaine façon la crise écologique. Une partie des raisons pour lesquelles on ne fait rien, c'est aussi l'inégalité persistante dans nos sociétés. Comment volontairement allez-vous renoncer à un voyage en avion si vous voyez un riche tous les 4 matins partir en hélicoptère sur le yacht de ses amis millionnaires? Comment est-ce que vous allez vous décider à pas prendre votre voiture et à prendre un bus pour aller à votre travail si vous voyez tous les 4 matins votre voisin prendre son 4x4 démesuré pour aller en ville? Donc la réduction des inégalités, elle est aussi une façon de sortir de questionnements individuels qui sont impossibles à résoudre. Et de la même façon, l'idée de taxer pour contraindre, si vous commencez à taxer les billets d'avion, ça va être ou si vous commencez à taxer l'essence ou à taxer les déplacements, ça va être douloureux pour les revenus modestes, ça va être douloureux pour les revenus moyens, et ça va être absolument inodore, incolore pour les gens qui sont riches et qui peuvent payer une taxe de 200 € et quand même prendre l'avion pour aller à New York. Donc la question de la progressivité de l'impôt, de taxer fort les revenus riches, de taxer faiblement les revenus pauvres, elle se joue là aussi, et c'est des questions qui sont discutées actuellement. La progressivité de l'impôt, elle a été sacrément remise en cause dans notre société. Des choses comme la vignette automobile. Vous vous rappelez de la vignette automobile? Plus vous achetiez une voiture puissante et donc qui consommait de l'énergie et donc qui polluait, plus vous payez cher la vignette automobile. Et pour les voitures puissantes, les gens payaient sacrément cher quand même. Bon, Fabius a fait sauter la vignette automobile, mais c'est des choses à remettre en place. Vous voulez acheter une voiture démesurément puissante, ben vous allez le payer démesurément. Et peut-être que vous n'achèterez pas cette voiture. Donc toute cette question de l'inégalité à l'intérieur de nos sociétés comme problématique environnementale, elle est à affronter, elle est à affronter politiquement.
Vous avez une autre question ?
Alors, bonjour. Donc moi, j'ai pas suivi le début de votre exposé, donc je peux pas tout réagir sur tout, mais notamment quand vous parlez des pays du Sud qui ont besoin de se développer. Il y a notamment les pays émergents tels que l'Inde ou la Chine qui polluent à tout va parce qu'ils n'utilisent pas les méthodes de développement les plus écologiques qui soient, mais les plus rapides. Donc là, c'est une question d'efficacité, donc je ne sais pas si vous en avez parlé. Mais du coup, c'est un autre problème, ça. C'est parce que pour eux, justement, les énergies fossiles, c'est très rapide pour le développement énergétique. Donc ils négligent le nucléaire qui, de toute façon, à l'heure actuelle, n'est pas une solution. Mais je ne sais pas si vous avez aussi parlé, par contre, de la fusion nucléaire qu'on n'arrive toujours pas à contrôler et qui, là, serait véritablement la source d'énergie idéale, si on arrivait à la mettre au point de manière contrôlée. Mais ça, ça fait déjà 50 ans qu'on essaye.
Oui, mais parler de la fusion nucléaire, ça n'a aucun intérêt. Ça fait 50 ans qu'on nous dit que ça va être au point, et aujourd'hui, on nous dit que ça va être au point dans 50 ans. Ce sera trop tard dans 50 ans. Donc, moi, je pense qu'il faut réfléchir avec les solutions techniques qu'on maîtrise aujourd'hui, pas avec des paris sur le futur. Si on fait des paris sur le futur, on risque de les perdre. La question de... On a beaucoup parlé de la société de l'hydrogène. Alors, l'hydrogène allait être l'énergie du futur. On allait en produire en quantité inépuisable, etc. Mais l'hydrogène, ça marche pas. Il faut plus d'énergie pour en produire que de l'énergie qu'on en retire. C'est les shadows, ce truc. Vous faites un trou, puis vous faites un trou, puis vous faites un trou. Donc, il faut abandonner ces paris sur le futur. Et je pense qu'il faut réfléchir avec les énergies qu'on a aujourd'hui. Et il faut réfléchir à consommer moins. Pas à continuer nos niveaux de consommation en allant chercher des sources d'énergie hypothétiques qu'on ne trouvera probablement pas, ou trop tard.
D'autres questions, s'il vous plaît ? Des interrogations, je ne sais pas, ou des propositions, peut-être ? Bon, bah écoutez, on va remercier Philippe de nous avoir développé un peu ce... Enfin, nous avons fait un état du réchauffement climatique de la planète. Moi, je vous encourage à lire ce livre parce que finalement, vous allez apprendre plein de choses tout en vous amusant, parce que c'est plaisant à lire, mais parce que finalement, vous allez en ressortir un petit peu transformé.
Merci Philippe. Merci à vous.